Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 4. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi Arnaud et mon partenaire dans le crime. Vous excuserez peut-être la qualité de son un petit peu inférieure d'habitude, mais pour une fois, nous sommes absolument côte à côte, à moins de 5 cm l'un de l'autre. Oui, on enregistre en live, mais avec du coup une technique un peu plus rudimentaire que d'habitude. Comme d'habitude, ça reste un podcast, ça reste notre podcast Recosic. On va vous faire chacun une grosse reco avec plein de petites recos dedans. Et à la fin, un truc en plus, plus ou moins rattaché à la musique. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, on va revenir un petit peu sur le contexte d'une de nos recos. Vous avez le programme, vous savez qui nous sommes. On y va, go go go. C'est quoi ta reco, Ororo ?
Alors, ma reco, c'est l'album The Holy Mountain de Bohnegan. Bohnegan, vite fait, c'est un groupe de Londres, mais constitué de musiciens japonais, en fait, qui sont tous au contrat à Londres. Donc, voilà, simplement. Groupe délocalisé. Et en fait, ils ont recomposé à l'occasion de... Alors, pas forcément à l'occasion de deux concerts, mais ils l'ont aussi interprété pendant deux concerts à Londres et à Paris. Mais ils ont recomposé, en fait, une BO pour le film de Holy Mountain de Alejandro Jodorowsky. Donc, Jodorowsky, hein, je le prononce avec l'accent. qui est scénariste bien connu des passionnés de BD européennes des années 70. Et qui est un scénariste qui a fait aussi beaucoup de films et d'autres productions assez étranges. C'est le genre de créatif un peu incontrôlable et incontrôlé qui a répandu beaucoup toutes ses idées un peu partout. Et qui est d'ailleurs aussi responsable d'une production avortée de Dune, avant la réaction de Lynch.
Dune dont le book de, comment dire, le scénario storyboard de livre de référence Bible a tellement circulé dans Hollywood dans entre 72 et 77 qu'on sait maintenant, avec 30 ans, 40 ans après, qu'il a énormément influencé sur des gens comme Lucas ou Ridley Scott quand ils vont faire le premier Star Wars et le premier Alien, par exemple.
Exactement, ouais, le premier Alien qui a été, en fait, qui est le produit de la rencontre de créatifs, en fait, oui. qui étaient embauchés pour la création de Dune en particulier.
Bannon et Dan O'Bannon, et je me souviens plus de l'autre, mais oui.
Ouais, Giger a dû aussi être impliqué, ouais, mais... parce que du coup, forcément, c'était aussi dans la même sphère que Jodorowsky, mais du coup, voilà, c'est... The Holy Mountain, c'est une des créations cultes de Jodorowsky. Et la BO avait été réalisée par Don Cherry et Jodorowsky, parce que forcément, il a été impliqué dans tout, et il ne pouvait pas s'arrêter.
C'est un réalisateur démiurge.
Ouais, exactement. Il avait besoin d'être là, et donc du coup, forcément... Alors du coup, sur Tidal, et je pense sur Spotify aussi, c'est lui qui a le crédit principal de composition des morceaux, alors que bon, c'est pas forcément, je pense, le même, le mec qui était le plus présent nécessairement au studio pour tous les instruments. Mais bref, toujours est-il que The Holy Mountain, c'est une œuvre un peu plus culte, et il a donc réalisé, enfin, le groupe Bohnegan, en fait, a fait une BO alternative à ce film. Et en fait, leur BO, elle, prend un tournant totalement différent de ce qui est dans le film, parce que dans le film, c'est plus proche d'un jazz assez orchestré avec beaucoup de fusion culturelle, alors que là, on est vraiment dans un espèce de rock déstructuré, instrumental, où tous les musiciens en fait vont s'exprimer d'une manière assez originale en fait pour une formation rock. Et c'est une BO en fait qui prend beaucoup plus son sens quand on connaît le film. Mais je trouve, pour avoir découvert la BO en fait avant d'avoir vu le film, j'ai pris beaucoup de plaisir. Du coup, toi, tu connaissais le film?
Moi, je connaissais le film. Et d'ailleurs, au début, je me suis demandé s'il y avait un lien direct, très honnêtement, à cause du titre. Alors en plus, moi, je ne suis pas suffisamment anglophone et anglophile pour avoir percuté tout de suite au début le titre.
Oui, je confirme, hein, là, avant même l'enregistrement, j'ai fait genre, mais t'as vu The Holy Mountain, des références cinématographiques à l'ancienne, et il me fait genre, non. Fait genre, oui, la montagne sacrée. Ah oui,
voilà. Ah oui, mais il y a des films, quand tu les vois beaucoup plus jeunes, tu retiens pas nécessairement les mêmes infos au même moment, enfin, et le titre.
Jodorowsky, quoi.
Ouais, alors, justement, c'est là où ça devient intéressant par rapport à ce que tu me posais comme question. C'est quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est super étrange parce que ça, elle a paradoxalement, leur production, je trouve, beaucoup plus psychée.
Oui.
Finalement, beaucoup plus proche du côté psychédélique du film que n'était la bande originale de l'époque, qui,
absolument,
elle, pour le coup,
ouais,
était, je mets des gros guillemets, hein, relativement sage comparé au tout le reste du contenu du film.
Ah oui, alors relativement sage par rapport au contenu, c'est important de faire la comparaison, parce que le film n'est pas du tout sage.
Voilà.
Le film est vraiment...
Pas sage du tout, je pense qu'on va y revenir dessus un peu plus tard dans l'émission, mais du coup, cette BO, elle est étonnamment parfaite, dans le sens où elle cale vraiment, elle fait 1h42, ça veut dire qu'elle est quasi à l'identique de la durée du film.
Ouais, je pense que quand ils l'ont fait en live, d'ailleurs, ils ont dû sûrement projeter le film en même temps.
Je soupçonne,
parce
que c'était un concert projection.
Ouais. Là, ça laisse vraiment pas de place au dialogue. Alors, il n'y a pas tant que ça, vraiment de dialogue, entre guillemets. Dans le film, il y a beaucoup d'illustrations. Mais beaucoup d'illustrations. Mais le fait est que Bunnygan, effectivement, c'est plus un groupe de rock psyché. Alors, là, dans cette BO, ça se sent pas forcément. Pour les avoir vus en concert, lors d'un Roadburn l'an dernier, j'en ai vu une partie du concert et c'était très 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 psyché. Et surtout, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils maîtrisent extrêmement bien leur son.
Ouais.
Donc, même si les instruments vont pas forcément faire de mélodies genre ultra catchy, en fait, le son est tellement, je dirais pas propre en fait, mais tellement précis et tellement bien balancé en fait, que tout s'écoute avec énormément de plaisir en fait. Il y a une maîtrise des instruments et du matos qui fait que c'est vraiment cristallin en fait là dans la qualité sonore du disque et dans tout ce que joue le groupe. Donc même quand le batteur fait des effets un peu noise ou va faire un peu de, comment dire, il va pas faire un rythme de manière un peu catchy ou évident quoi, il va agrémenter un peu partout. En fait, tout sonne tellement juste qu'il n'y a jamais vraiment de lassitude. Même pour une BO aussi longue, en fait, ça bouge tout le temps. C'est toujours en mouvement. Ce qui, d'ailleurs, répond très bien au film, parce que pour le coup, le film dégorge d'idées constamment. C'est de l'idée à la minute. Et il y a facilement plusieurs sketchs, entre guillemets, dans le film qui pourraient être du matériel pour faire un film entier. Mais à la place, le film fait genre, alors, tel personnage, on a 5 minutes dessus, on a 20 000 idées visuelles, et on passe à autre chose. Allez, bonne journée. Et là, pour le coup, il y a un peu cette tendance à vouloir toujours répondre au maximum à la créativité qui est présentée dans le film, toujours en ajoutant et en essayant de créer quelque chose de vraiment différent, en fait.
Ouais, mais il n'y a pas... On en reparlera, mais le film souffre pour moi d'un manque d'unicité par moment.
Ah bon?
Oui, c'est surprenant. Hein. mais que je trouve qu'il n'y a pas dans la BO. Alors, comme je l'ai écouté en n'ayant pas d'a priori par rapport à la question du film, enfin, en ne la mettant pas systématiquement, enfin, vraiment en ayant constamment la question de me dire mais oui, mais non, mais est-ce que c'est ou pas du tout. Et du coup, je pense que pour moi, j'ai trouvé qu'elle était incroyablement cohérente.
Ouais.
On est bien d'accord, The Holy Mountain Live Score. L'album disponible, c'est un enregistrement live.
À mon avis, oui. Parce que je vois pas du tout comment à quoi ça servirait en fait de composer quelque chose, ou alors à la peine d'Eriki, puisque en disant genre tant de temps on laisse à telle place et puis après on passe à autre chose. Je pense que c'est plus comme ça, c'est-à-dire que ils avaient un schéma global de ce qu'ils voulaient faire, avec en disant genre toi tu vas commencer le morceau. en faisant ce que tu veux. Et puis après, au bout de genre 5 mesures, moi je rentre. Et puis ensuite, la basse, elle fait tel truc. Et ensuite, on passe à autre chose, tu vois. En structurant les morceaux comme des morceaux de jazz, je pense que c'est quelque chose qui a de free jazz. Ça a beaucoup plus de sens qu'en se disant, bah, ils ont passé genre 4 semaines en studio pour écrire tout ça, alors qu'en fait, le batteur, il donne l'impression plus d'improviser qu'autre chose, en fait. Mmh. Improviser avec talent, mais il improvise, quoi.
On en revient du coup à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Le niveau de maîtrise, de technicité, de précision, du coup, de cette BO, c'est incroyable, c'est extrêmement impressionnant. Ils ont, on parle d'impro probable, peut-être, on n'a pas exactement la genèse, mais ils ont une capacité, une netteté dans le son, une netteté dans le travail, dans la production au final du rendu de cet album qui les sert énormément, qui rend ce rock, ce côté psyché assez, enfin qui est extrêmement prégnant, extrêmement imprégnant. Tu rentres dedans, c'est absolument pas ma cam, soyons clairs, hein, comme style.
Sur le papier, c'est
incroyable comme ça t'absorbe, ouais. Ça te prend, ça te rentre dedans.
Sur le papier, c'est très très difficile à vendre en disant genre bah voilà, ça va improviser pendant 1h40 avec une formation rock. Tu dis genre bah pas, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'écouter aujourd'hui. Mais en fait, il y a 22 morceaux, je l'ai lancé comme ça et je suis vraiment laissé rester scotché dès la première écoute à me dire genre mais putain, mais non seulement c'est maîtrisé, mais en plus tu sens que les musiciens vraiment il y a une véritable ils jouent les uns avec les autres, c'est-à-dire que ils sont tous dans l'optique de se répondre et de se servir mutuellement. Ouais. C'est ça aussi ça, le charme et l'importance de formation de ce genre, c'est que t'as pas genre trois musiciens qui vont servir le guitariste. Et puis voilà, ils font leur petit truc, et puis derrière, t'as genre le guitariste qui va faire ce guitariste soliste. Là, c'est quatre solistes. C'est vraiment quatre personnes qui vont chacun se dire genre que je te laisse l'espace, et ensuite moi je m'enchaîne. Mais il y a une véritable liberté, et une liberté d'expression en fait, qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. Et qui d'ailleurs répond assez bien d'ailleurs à ce que se veut en fait le propos de The Lamentine. Je trouve que c'est aussi ça, aussi la raison pour laquelle le film et le choix du film correspond très bien au ce registre musical de Boningen, parce que en fait, dans le film, le propos même est la liberté à l'imagination, la liberté de s'exprimer, de vivre tel qu'on le veut, et le groupe en fait est justement incarne très bien cette liberté parce que il se laisse l'espace. Ce qui est en revanche ce que ne faisait jamais Jodorowsky avec tout le monde, parce que ça avait l'air d'un gros contrôle freak.
Paradoxe, mais c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est qu'il se laisse de la liberté, mais à côté de ça, ça donne une forme vraiment d'unicité globale à la musique et à la BO, moi que je trouve génial, enfin, qui est vraiment, qui la sert, qui sert son propos, qui sert son intention, mais enfin, vraiment l'impression que tout est en harmonie. Les interprètes, l'intention, le résultat. Et finalement, la manière dont on peut la recevoir, parce qu'après, chacun avec sa sensibilité va recevoir cette BO de façon différente, mais il y a vraiment l'impression que c'est too much, too much. C'est vraiment... dit comme ça, ça semble vraiment un peu bizarre, voire même neuneux, mais il y a vraiment... C'est vraiment l'unicité, c'est vraiment la sensation que j'ai après l'écoute de la BO. Vraiment la cohérence, le truc qui va... c'est même au-delà de la cohérence. C'est vraiment le truc vraiment qui... Unique.
C'est le j'aime bien l'expression d'accident heureux, et je trouve que là, bon, en l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'il y a que ce soit l'accident, mais dans le sens où comme le disait Miles Davis, il y a pas d'accident, il y a pas de mauvaise direction en fait, il y a pas de mauvaise idée, c'est juste bah ok, on va passer, ok, le type propose quelque chose de différent de ce que j'avais prévu, c'est pas grave, on réoriente. Et je trouve que c'est justement le genre de disque qui tout en étant fait par des musiciens rock et une formation rock, correspond très bien à ce que font des musiciens de jazz, puisque ça correspond à l'idée de dire genre bah ok, si toi tu fais ça, bon bah dans ce cas-là moi je vais répondre de telle façon, et puis ensuite ça va donner une idée à telle autre personne pour faire tel autre truc, mais ils vont toujours rester dans l'optique, ce qui va canaliser leur énergie, c'est vraiment le film. Et là, le découpage d'ailleurs des plages correspond totalement à la structure du film, hein, c'est vraiment ça. Le film a cette force d'ailleurs, pour en faire une BO, c'est que tu peux clairement, facilement diviser et dire genre tel moment, tel truc, telle image, telle atmosphère. Et donc, il y a le problème, en fait, qu'a un peu ce film, c'est justement qu'il part dans tellement de directions qu'il faut vraiment s'accrocher. Hein. Si je vous dis que dans la page Wikipédia, on parle du fait qu'ils étaient sous LSD pour rédiger une partie du scénario, je pense que ça surprendra personne, surtout encore moins au visionnage du film. C'est un petit peu c'est-à-dire qu'on s'y attend un peu. Ça, le contraire aurait été vraiment surprenant. C'est-à-dire que si à la fin, après avoir vu le film, on m'avait dit, genre, ils étaient totalement sobres pendant 20 mois. J'étais genre, pardon.
Oui.
Non, ce serait presque plus problématique s'ils avaient rien pris, en fait. Là, en l'occurrence, c'est bon, ils étaient partis, donc ils sont allés bien loin, et à la fin, ils étaient contents. Mais là, en l'occurrence, ça ne donne pas vraiment en fait cette impression-là avec Bonnie Jane, parce que justement, c'est tellement bien canalisé par le film. Le film donne déjà suffisamment d'idées et déjà suffisamment trippant pour qu'en fait, t'as pas besoin d'arriver en disant genre, bon, bah, va falloir que je prenne aussi des produits. Genre, bah non, justement, c'est le voyage, tu peux te rentrer dans le voyage,
ouais.
Et eux vont rajouter leur couche. Et du coup, ça ferait une deuxième BO qui est vraiment... qui répond parfaitement aux besoins du film et qui, en fait, pourrait très bien se coller derrière le film. D'ailleurs, je regrette d'ailleurs de ne pas pouvoir plus aller au concert sur Paris,
ouais.
Parce que j'aurais vraiment adoré... Alors, à regarder le film à froid, sans le connaître et le découvrir comme ça sur grand écran, je pense que ça aurait été un peu troublant, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages un peu difficiles dans ce film, quand même. Hein. Si vous aimez les grenouilles, n'allez pas voir ce film. Surtout, n'allez pas voir ce film si vous aimez les grenouilles. Mais en l'occurrence, c'est quand même vraiment le gros voyage, parce que là, pour le coup, on est parti pour 1h40 d'impro. Quoi. Ou en tout cas, une impro vraiment... une approche quand même, autant du film que de l'album ou du live, vraiment imprévisible en fait. On va se dire genre, ok, qu'est-ce qui va se passer après? Mais le fait est que Boningham, pour avoir vu en concert, ça joue tellement, tellement bien que je pense que autant les lives que le disque en fait valent mais largement le déplacement et pourrait d'ailleurs être disponible. D'ailleurs, on prend le disque et puis après on met la version live, parce qu'il y a matière en fait à faire des propositions différentes de la même façon, encore une fois, que dans des trucs de free jazz comme Coltrane ou d'autres le faisaient. T'avais genre prise 1, prise 2, quoi.
Ouais.
C'est le même morceau, sauf que bah, du coup il y a des moments où il y a des grosses divergences, donc du coup bah, ça a décidé, est-ce que tu préfères la première prise ou la seconde prise. Là c'est pareil, c'est vraiment, même s'ils prennent ils ont exactement la même structure de live en live, c'est impossible d'imaginer, il y a forcément des variations et des moments où on dit genre, ah putain, il y a une super bonne idée là qui n'était pas forcément là avant, donc il y a moyen de recomposer quelque chose en fait à chaque fois.
C'est un work in progress constant, ouais. Entre guillemets. Et là où c'est marrant, c'est que finalement, ça renvoie à cette bande originale, qui était déjà très jazz, un peu free jazz. C'est vraiment marrant, ça fait un écho, une espèce de boucle dans la boucle, qui est vraiment, qui est fascinant, au final. Qui est fascinant tant sur la forme que sur le fond, que sur tout ce qui existe autour, on va dire, autour de ça. Déjà, alors, moi je suis peut-être un petit peu moins dithyrambique à propos du film, mais on va y revenir, hein, de toute façon.
Non, je suis dithyrambique, en fait, dans le sens où c'est quand même, ça foisonne d'idées. Après, je pense qu'il y a vraiment matière à débattre sur la forme, le fond, l'exécution, l'éthique.
L'éthique.
Ah là 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 là.
Vu les bails qui sont sortis depuis quelques années sur le moment de la prod du film et la réalisation.
Non, mais même sur le film en lui-même, c'est assez évident, quoi.
Ouais, on en reparlera après. On va reparler justement de ce film, vous voyez, il y a plein de choses à dire.
On garde les cartouches.
Dessus.
Exactement. Mais en tout cas, du coup, je vous encourage vraiment à tester cette BO. Pas forcément la meilleure approche pour découvrir Bonnie Jane en soi. Je vous encourage plutôt de tester les albums précédents qui vont être un peu plus rock, plus structurés. Le chant est vraiment nickel aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est du truc super maîtrisé. Les gars ont du gros charisme aussi sur scène, hein, c'est un peu quand ça monte sur scène, tu te dis genre, ah ok, c'est des demi-dieux du rock, quoi, donc il n'y a pas de problème. C'est très facile de voir pourquoi on parle du fait qu'ils ont eu ils ont eu beaucoup de succès très facilement, parce que oui, c'est une de ces formations, quand tu vois arriver ça sur scène, puis comment ça joue, comment c'est maîtrisé, la machine à hype, elle est difficile à échapper, quoi. C'est vraiment un truc assez suffisamment maîtrisé et intelligent et original, et avec toute présentation cohérente, que t'as du mal à te dire genre oh ces gamins ils vont aller nulle part, genre non si justement ils vont aller quelque part. Mais donc si vous découvrez Bonnie Jane, clairement testez les albums précédents, mais si vous avez ne serait-ce qu'une petite connaissance de The Holy Mountain, donc la montagne sacrée de Jodorowsky, ou juste si vous voulez prendre un gros trip psychédélique dans la tête pendant 1h40, écoutez, allez sur cette BO.
Voilà, donc c'était un reco pour aujourd'hui. On va passer à la mienne, qui est alors un peu différente, mais qui a quelques points communs. Qui est cohérente. C'est donc le 5e album du groupe Altin Gun. Alors, je ne prononce à l'anglaise, mais je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça.
Bah, en fait, on prononce à nulle part, parce qu'il y a un tréma sur le U.
Donc voilà, qui est un groupe, et donc c'est pour l'album Ask. Donc c'est un groupe formé, alors, qui est dit d'origine turque, mais qui est formé principalement donc au chant de deux Turcs pour le reste de Hollandais.
Ouais, à la base, c'est le guitariste qui est le membre fondateur, et donc qui vient de Amsterdam,
oui.
Et enfin, en tout cas qui est basé sur Amsterdam, et donc du coup il y a les deux chanteurs qui sont turcs.
Qui sont turcs et qui chantent en turc dans 90% des cas. Là c'est leur 5e album. Pourquoi vous poussez cette musique que je trouve assez, qui est particulièrement positif pour moi, qui a une énergie génialissime, qui est très riche, qui change énormément, qui crée des décalages partout dans la sonorité, qui est vraiment, pour moi, qui est vraiment quelque chose de, alors à nouveau, psychédélique. On est à nouveau, surtout sur cet album-là, on retombe sur une forme un peu psychédélique de rock, même si je trouve que c'est pas si marqué que ça.
Non, c'est plus pop en fait, voilà. C'est beaucoup plus structuré. Il y a un petit côté psychédélisme dans le jeu en fait, parce que effectivement ça voyage assez. Il y a pas mal d'expérimentation, mais globalement ça reste quand même. Et puis surtout, en fait, c'est surtout très influencé par le rock psyché turc. Voilà. En fait, c'est surtout ça.
Bah c'est un rock psyché turc pour moi, tout vraiment en termes de fond. C'est leur 5e album. Moi, je suis arrivé sur cet album par le générique de l'émission « Ce qu'il fallait démontrer » de France Inter. Donc, en réalité, c'est le générique de cette émission tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, à 16h. Je dis ça, je dis rien, c'est très bien, allez-y.
Du roco dans la roco.
Voilà, comme d'hab, vous savez, on lise des trucs. Mais honnêtement, de tous leurs albums, c'est quand même celui-ci ou celui donc, d'originaire du générique de l'émission de France Inter que j'ai trouvé plus intéressant. Certaines d'autres versions sont un peu plus électro, d'autres un peu plus 70s dans leurs albums, mais vraiment, je trouve que celui-ci est bien plus riche finalement. Il y a une forme d'aboutissement comparé au précédent que je trouve bien plus intéressant et au final, du coup, plus porteur d'émotion, d'énergie, et du coup, qui me parle fondamentalement beaucoup plus.
C'est vraiment facilement accrocheur en revanche, là pour le coup, en comparaison avec la BO d'Holy Mountain dont on vient de parler, ouais. Là, c'est vraiment très très facile d'approche. Suffit d'avoir un peu de sensibilité, d'ouverture d'esprit, de sensibilité pour la musique rock. Et là, voilà, c'est un groupe, je crois, qui a été nominé pour un Grammy ils ont une bonne réputation, et c'est aussi très facile à comprendre pourquoi ça fonctionne, parce que d'une, c'est, je pense, bien dans les tendances. Alors, ce qui m'amuse d'ailleurs très très fortement, c'est pour avoir lu des chroniques du disque et du groupe. Chaque chroniqueur a réussi à l'exercice incroyable de ne pas mentionner King Gizzard and the Lizard Wizard. Alors, ce qui je trouve assez ouf, parce que pour le coup, c'est aussi un groupe, alors pour le coup, qui est d'origine australienne, mais qui revendique très très fortement son influence de groupe rock psyché turc. C'est clairement clairement leur délire. Ils ont été interviewés d'ailleurs par des médias, je crois, turcs. Ils ont fait genre on surkiffe, on est à donf dessus, on dit pas mal plein de disques de l'époque et tout, donc c'est clairement une grosse grosse référence. Et Et bon, ça s'entend super facilement quand on est tout le... Par exemple, Flying Microtonal Bananas, par exemple, qui est super marqué par justement des sonorités de ce type. Ou même sur l'album qu'on avait parlé, quand on avait fait une roco, on avait parlé de l'album Omnium Gafferum,
oui,
qui était une compilation de plein de trucs différents.
Ouais.
Et là, pour le coup, en plus, ça se recoupe encore plus avec King Gizzard, puisque Astingen, ils aiment bien expérimenter, ils changent d'époque. King Gizzard, c'est aussi le cas. Entre d'album en album, ils ont quand même pas mal de sonorités différentes et d'influences différentes. Ils ont un côté un peu électronique, ça se retrouve aussi chez King Gizzard. Et puis voilà, les sonorités, là, on est à donf dessus. Alors, la différence, c'est King Gizzard, c'est quand même un groupe qui a toujours l'envie et le besoin de garder un son assez live. Les disques sont rarement surproduits ou en tout cas produits suffisamment pour que ça sonne très pop. Il n'y a que, je crois, l'album Changes récemment qui était un poil plus contenu de ce point de vue-là. Et qui était...
Je ne sais pas pourquoi on en avait parlé, je crois, justement, peut-être, de ce côté, ouais, cette bascule un peu pop. En parlant d'un autre groupe, tu avais déjà évoqué cette espèce de sonorité de King Gizzard qui avait un peu évolué.
Et donc, du coup, là, en l'occurrence, Astingen, c'est vraiment le passage beaucoup plus canalisé. Tu sens que là, les morceaux, ils ont vraiment écrit un maximum. Alors, d'ailleurs, je crois qu'à la base, c'est un projet studio.
Ouais.
Donc, ça s'entend grave, quoi. Le son, et d'ailleurs, la production est vraiment super, mais crispy, quoi. C'est vraiment... La batterie, elle sonne mais méga, méga bien. Il y a vraiment ce côté ultra 70s vintage. Ça enregistre d'ailleurs sur bande analogique. Donc, ils sont à fond sur le truc. Genre, allez, on est reparti. Genre, la DeLorean est partie avant le futur, c'est bon. Genre, là où on va, il n'y a pas de route. Il n'y a de la weed.
C'est un peu ça. Mais cette tonalité, d'ailleurs, cette maîtrise technique volontaire et ce choix parfois, alors je mets des très gros guillemets, un peu rétrograde sur le rendu sonore, fait qu'en vérité, ça relève de la maîtrise et pas simplement de l'artifice, parce qu'ils l'utilisent à fond. C'est vraiment un outil pour eux pour aller dans l'expression du son qu'ils veulent, et c'est pas juste soit un effet de mode, soit un effet technique, soit un effet parce que c'est machin, ils ont pas les moyens, ils font ça. Il y a, comme tu dis, c'est super bien produit. Il y a un effet de rendu un peu craquant, on va dire, comme tu disais, crispy, là, mais ça empêche pas qu'on entend tout.
Oui,
c'est pas dégradant, et c'est en ça que je dis, la prod, elle est... très très maîtrisé, ça fait partie du truc. Tout comme tout à l'heure, on évoquait pour Bonogen, le côté parfaitement maîtrisé, incroyablement structuré, mais qui permet la liberté. Là, on est à nouveau face à un groupe sans le côté free jazz, indépendant, improvisation. On est sur un groupe qui construit sur un projet de studio, va jusqu'au bout de la démarche et maîtrise vraiment et avec intelligence et avec du coup en nous servant quelque chose de réussi qui n'est pas froid, qui n'est pas distant et qui est de mon point de vue en tout cas, et qui offre vraiment une qualité de prod mais génialissime quoi. Au casque, avec un bon casque bien fermé, c'est incroyable l'effet pas pénétrant mais massif de la musique dans le sens où tout est là.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, la pochette répond très très bien à ça, parce que t'as une pochette vraiment avec des couleurs super choues, très très 70s.
Ouais.
Ça pourrait clairement être la couverture d'un bouquin de SF, d'une vieille édition de Noël, je sais quoi, tu vois.
Vraiment, les années 70.
Exactement, à donf. Et en même temps, c'est du pointillisme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails partout. Ouais. Et je trouve que ça correspond très bien à ce qu'ils font musicalement, parce que oui, c'est rétro, mais en même temps, ça se veut pas du délavé. Quand je disais que c'était un peu tendance, je voulais pas non plus être péjoratif dans le sens où ça a essayé de surfer sur quelque chose qui existait déjà. Je trouve justement qu'en revanche, ils créent ils ont leur passion, leur envie, leur esthétique. Il se trouve qu'actuellement, c'est ce genre de choses aussi qui fonctionne plutôt bien. Par exemple, Crowenbean, aussi le groupe de rock un peu psyché, qui fonctionne aussi méga bien et qui est aussi super sincère dans leur approche. Il n'y a pas de souci. C'est aussi ce genre de truc qui marche plutôt pas mal pour une partie de la presse rock. Et là, il s'insère totalement dans ce délire-là. Bon, si vous aimez King Gizzard, vous allez forcément kiffer ça, mais c'est quand même super différent. Ça se veut quand même être un groupe de rock qui va chercher plus l'accroche pop, mais en plus qui va pas... Il y a aussi le côté, je trouve, ce qui peut être un peu déstabilisant au départ, c'est de se dire genre, ah ok, c'est des Hollandais qui font du rock turc, genre... qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, elle est où la sincérité? Et en fait, je trouve qu'ils arrivent quand même à très bien broder sur des tonalités qui sont proches de qui sont influencés par le rock psyché turc, mais en même temps, ça donne pas du tout l'impression d'être du ressucé, de dire genre, alors là, les clichés, alors un cliché 2, cliché 3, ils sont tous là, ok, morceau suivant, cliché 2, cliché 3, là non, ça sonne pas du tout comme ça, ça sonne vraiment comme un groupe qui s'est trouvé une base et des types d'accords en fait, et qui va ensuite broder sur ces accords tout en restant dans cette esthétique, mais en cherchant toujours à s'exprimer d'une manière originale. Et ça s'entend, en fait. C'est vraiment, vraiment très, très bien foutu. Donc, pour avoir découvert le groupe, en fait, uniquement avec ce disque-là, ou juste avec quelques morceaux, moi, j'ai trouvé ça ultra convaincant, quoi.
Non, non, mais je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, la manière dont on l'approche, ça me fait penser... Je l'avais écouté à l'atelier, l'album, quand je travaillais. Alors là, par contre, pas du tout au casque. Et j'avais écouté, réécouté 3-4 morceaux parce que l'occasion s'était présentée. Et j'ai un collègue qui était arrivé à ce moment-là. Et lui, qui est pourtant bien entré, mais il y a quand même une petite précision dont on n'a pas dit, même si on l'a dit au tout début, les deux chanteurs sont d'origine turque et chantent en turc. Ouais. Ça peut... Mon collègue, typiquement, avait bien accroché sur les entrées musicales. Et d'un seul coup, quand le chant a démarré, il a fait... Mais il y a eu... Il y avait une espèce de décalage dans son cerveau entre ce qu'il recevait comme musique et la langue qui était utilisée pour le chant, parce que c'est pour marrant. Lui, il y avait un vrai décalage. Le turc, il ne le comprend pas. Ça aurait été de l'allemand, ça aurait été de l'anglais, des langues, on va dire, dont il avait l'habitude. Je pense, parce qu'après, on en a reparlé après un peu plus tard, je pense qu'il aurait moins bugué. Là, littéralement, il a tiqué et ça a créé chez lui un décalage et non pas un rejet, mais du coup, il a dû refaire un effort pour re-rentrer dans la musique. D'accord. Parce que la langue l'avait un peu sorti du morceau.
C'est marrant parce que justement j'aurais trouvé que si ça avait été chanté en français ou que ça... Alors bon, après King Gizzard s'est chanté uniquement en anglais, mais en même temps c'est un groupe qui se présente comme un groupe australien et ils n'essayent pas de même s'ils ont des influences qui sont pas d'Australie, du coup ils n'essayent pas non plus de prétendre à quoi que ce soit. Eux, ils arrivent avec vraiment l'étiquette voilà, rock, psyché, turc, hollandais, turc, quoi. Donc, le fait de revendiquer à ce point-là cette influence d'une manière aussi ouvertement, je pense que ça aurait été vraiment déstabilisant d'avoir autre chose que du turc, en fait.
Je suis d'accord, comment...
Et je trouve que d'ailleurs, ça répond... Enfin, la langue, en fait, correspond parfaitement à la, enfin, aux accords, à la manière dont... Enfin, le chant est vraiment totalement d'accord. Il n'y a rien d'incohérent dans ce qu'il propose. C'est vraiment un truc... Dès la première note, tu ne peux pas te dire... oh, tiens, c'est étrange. Enfin, pour moi, en tout cas. J'ai peut-être plus l'habitude de ce genre de formation. Et moins le décalage avec la langue. Mais en tout cas, pour moi, c'était clairement un truc. Dis, genre, dès le départ, tu ne peux pas... Enfin, j'ai du mal à imaginer... ah, c'est étrange. Bah... Non, ça correspond totalement à ce que je peux, à mes attentes en fait.
Alors, je suis d'accord mais je mets juste une micro variable, c'est moi quand j'ai découvert, je savais pas que c'était un groupe de rock psyché turc. Je l'ai découvert par le biais de ce générique et quand j'ai retrouvé la piste originale, la seule truc intellectuellement m'a fait dire ah, attends, qui m'a moins surpris dans la langue, c'est que dans le morceau de référence, il y a du oud. Je crois que c'est ça dont
on a parlé.
Du saz, pardon, c'est ça qui
s'inscrit. Alors, pour la définition du saz, pour avoir regardé sur Wikipédia avant l'émission, c'est une sorte de luth, mais à manche longue.
Voilà.
Si vous n'avez jamais entendu parler de cet instrument, vous n'êtes pas les seuls.
C'est un instrument, du coup, qui a une sonorité particulière, qui sonne déjà vers le Moyen-Orient. Donc, moi, quand l'instrument a été utilisé dans une partie de l'intro, je me suis tout de suite, quand la voix est apparue, j'ai fait pas anglais, pas allemand, pas français, mais cohérent.
Oui.
Mais mon cerveau a quand même marqué le pas, il faut être super honnête. On est tellement baigné par des langues dans le musical qui sont comme ça, et surtout par rapport à la signature musicale de ce groupe, pour moi, c'est vrai qu'il y a eu un moment de « Eh, ah bah ouais, mais c'est bon, ça file. » Et là où je te rejoins, par contre, sur cet album-là, on en revient toujours au fait pourquoi je fais la reco sur cet album-là, parce que ça nous est déjà arrivé de faire des recos d'albums plus anciens, de groupes. Je trouve vraiment que là aussi, le chant en turc est utilisé à fond comme un instrument. En plus, je pense que c'est une langue qui s'y prête bien plus facilement que d'autres, en tout cas dans ses sonorités, dans son articulation. Et du coup, vraiment, on est toujours sur cette question de la qualité de la production, sur cet assemblage, sur cette qualité, sur le fait qu'on entende tout dans le sens positif dans ce mixage, et que ça rend vraiment le truc vraiment mais passionnant, impressionnant, culturellement extrêmement, moi je trouve, riche du coup,
ah oui,
mais tout
oui.
en s'inscrivant, comme tu dis, dans une tendance un peu à la mode qui est le rock psyché, quelle que soit son origine,
ouais.
Qui est vraiment quand même une bonne grosse tendance depuis 5-6 ans quand même, avec des groupes comme
King Lizard ou Krang Beans, ce genre de trucs. Ça fonctionne méga bien. Par pure honnêteté intellectuelle, je tiens quand même à dire que j'avais lu des trucs sur le groupe avant d'écouter, donc ça m'a peut-être aussi tout simplement influé sur mon impression, parce que pour le coup, toi, t'as découvert par un petit extrait, qui est d'ailleurs un extrait totalement instrumental, donc pour le coup, t'as découvert le truc en sachant pas trop sur quoi t'attends. Moi, j'avais déjà lu un petit peu, donc forcément, c'est, quand je suis arrivé, j'étais pas à me dire « Ah tiens, c'est surprenant !» Aussi parce que, et là, on revient sur ce que tu viens de dire, c'est très cohérent, tout le monde a droit à l'expression, et je trouve que justement, c'est tellement bien mixé, et très bien géré, c'est que tous les musiciens ont leur place. T'as pas l'impression que c'est du comme on avait pu parler sur la voix de Karen Ann,
ouais.
Il y a très longtemps, je trouvais que moi, pour moi la voix en fait était mixée trop forte en fait, ou légèrement trop fort, et ce qui est pour moi d'ailleurs un problème récurrent dans la variété française, c'est qu'on met la voix d'une manière un peu au-dessus par rapport au reste des instruments, et du coup pour moi ça me dérange toujours, parce que autant j'aime bien du chant, voilà, j'ai rien contre le chant, mais juste faut que ça s'implique et que ça s'incorpore dans le reste de la composition, et des fois il y a ce décalage qui moi m'a toujours beaucoup dérangé quand j'écoute des artistes français. Là en l'occurrence il n'y a rien, il n'y a pas du tout ce truc là, c'est une production qui est rock de ce point de vue là, il n'y a pas c'est pas si surprenant que ça, elle dénote pas par rapport à la norme, mais tout le monde est vraiment impliqué, donc le bassiste on l'entend méga bien, la batterie on l'entend super bien, les guitaristes on l'entend super bien, tout le monde est vraiment sur un pied d'égalité, mais tout a une véritable cohérence et ça fonctionne, mais enfin les titres sont mais immédiatement accrocheurs, quoi.
Ouais, c'est il y a ça aussi que je trouve fascinant, c'est toutes leurs ouvertures, toutes les ouvertures de cet album, il y a une manière d'entrer dans le morceau, de t'accrocher l'oreille. Tu vas peut-être pas l'aimer après, ou l'apprécier un peu moins par rapport au précédent ou par rapport au suivant, mais ils ont... Moi, je suis très... J'aime bien tout ce côté, la manière dont on va te faire rentrer dans un morceau, et je trouve que c'est extrêmement malin, la manière dont c'est construit. Malin, dans le bon sens du terme, hein, c'est qu'il y a toujours une entrée particulière. Pas de sensation de répétition aussi, parce que, je vais pas vous dire de bêtises, voilà, combien d'albums ? Il y a quand même... Il y a 10 morceaux, voilà, pour un album d'une quarantaine de minutes. J'ai pas de sensation de répétition. Il y en a un que j'aime moins, un seul, je sais pas pourquoi. Lui, il m'a.
C'est lequel, plus.
C'est l'avant-dernier, c'est. Je le prononcerai pas.
oui, on s'aventurera pas à le prononcer. Parce que
c'est
pour le
Güzeling
coup,
Jin On Para Et Mez. Voilà, c'est
monsieur,
du.
Alors, un homme courageux, donc. Il ne maîtrise pas la langue. Donc,
non, c'est du phonétique pur, enfin, c'est que les lettres, pour ce qui est les accents, je ne sais pas. Mais celui-ci, ça m'a fait vraiment une sensation de décote pour remonter après derrière avec le morceau final. Mais je trouve qu'ils ont toujours une façon d'accrocher, enfin ça revient avec le reste de la production, de rentrer dans le morceau, dans chaque morceau, les uns derrière les autres, que j'aime bien. Cette façon, on dirait de...
Bah, le séquençage,
on respire et on replonge. On respire et on replonge.
Le séquençage est vraiment bien géré.
Enfin, c'est vraiment une super trouvaille. C'était donc Marocco pour aujourd'hui. Donc c'était l'album Ask par Altingen, on va le dire comme ça. On vous a teasé.
Oui, on a teasé beaucoup.
On vous a teasé que nous allions reparler du... La montagne sacrée. Alors, oui, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un monument, c'est une montagne cinématographique française, mais pas que.
C'est plutôt... Mais alors, on a la page Wikipédia sur les yeux, donc c'est américain ou mexicain. C'est, en fait, français, parce que
Jodorowsky
est très, très, très implanté en France, mais enfin... Pour le coup, c'est un film qui parle beaucoup dès le départ, d'ailleurs, du fascisme. Pinochet, j'imagine.
Alors, je suppose Pinochet, même si, vu l'époque... Oui, si, c'est Pinochet.
Ouais, pour le coup, l'introduction, pour le coup, c'est un film qui s'incorpore vraiment dans un contexte historique sud-américain. Alors, moins à partir du moment où on commence à rentrer dans l'édifice où se trouve Jodorowsky, d'ailleurs. Mm-hmm. Alors, à savoir que le film est réalisé par Jodorowsky. Jodorowsky joue dedans, et c'est son fils qui a, entre guillemets, le rôle principal.
Oui.
Voilà, qui devait... qui joue d'ailleurs une figure christique. Alors, bon, pour le coup... Il y a des figures christiques qui demandent une interprétation. Là, pour le coup, à partir du moment où son visage et son corps servent de moule à créer le Christ, à partir de ce moment-là, je me dis, là, c'est une figure christique. Donc, Parce que c'est le Christ. C'est ça la métaphore. Ah ok, d'accord, cool.
Ah, c'est le grand truc du film, ça.
On se moque, mais enfin, moi je moque, mais c'est pas pour dire que le film est mauvais. Loin de là. Je pense que le film mérite d'être vu dans un contexte et une connaissance de ce qu'on va peut-être voir, en sachant que peut-être que le premier gros éléphant à aborder pour parler du film, c'est le fait que les animaux qui sont employés dans le film, pour certains, sont... Enfin, il y a un moment, il y a un défilé avec des cadavres de chance de chiens. Mm-hmm. Je ne sais pas si les chiens ont été achetés tels qu'ils étaient sur le marché. Alors, et ils étaient déjà morts.
Clairement,
mais...
dans les notes de production qu'on a retrouvées, et pas à l'époque, honnêtement, qu'on a mis un petit peu de temps à ressortir, clairement, si vous êtes des amoureux des animaux, si vous êtes un ami des bêtes, si vous êtes quelqu'un, quelle que soit votre sensibilité, mais qui a une certaine affection pour les animaux, quels qu'ils soient, c'est pas le bon film, ou alors soyez prévenus.
Il y a un film d'horreur italien, c'était Cannibal Holocaust.
C'est Cannibal Holocaust.
Qui a une réputation comme quoi, je crois qu'il y a
Il y a une séquence de massacre d'une tortue.
Voilà, il y a une séquence du massacre d'une tortue. Le film a rencontré une volée de bois vert, mais monstrueuse à cause de ça. Je suis très 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 surpris que The Holy Mountain n'ait jamais reçu l'équivalent de cette volée de bois vert, parce que pour le coup, c'était que un animal.
Là, oui, il y en a plusieurs, dans plusieurs séquences.
Il y a plusieurs séquences, à plusieurs moments où tu te dis genre, ok, ça c'est clairement pas, du faux, parce qu'il y a pas suffisamment, il y avait du budget, mais absolument pas du budget pour faire des répliques de voilà. À savoir aussi, j'ai teasé entre guillemets le fait que si vous aimez les grenouilles, n'allez pas voir ce film, parce qu'effectivement il y a un moment aussi où il y a une colonie de grenouilles sur une maquette. Alors qui est une illustration d'ailleurs, encore une fois, absolument pas, enfin assez évidente, de la colonisation de l'armée portugaise sur des Mayas.
Ouais.
Et donc c'est reproduit avec des grenouilles. Oui, ça peut sembler paraît absurde, mais en fait quand vous le voyez, ça a du sens. Mais le fait est que il y a des explosions et des grenouilles qui sont bousillées. Bon, c'est clairement pas de l'effet spéciaux, hein. C'est clairement ces grenouilles là à ce moment là
quand la maquette explose avec les grenouilles dessus, les grenouilles sont pas des bouts en caoutchouc.
Voilà, exactement. Et puis après on les piétine, donc de toute façon pour ce qu'il en reste, il y en a qui survivent, mais bon, voilà, c'est clairement pas un film sur lequel on peut tourner autour du pot de ce point de vue là. Il y a vraiment des questions éthiques qui sont problématiques. Alors, à savoir le reste du tournage, j'imagine que ça n'a pas été des plus évidents non plus.
Alors, Jodorowsky traînait une réputation de contrôle fric absolu, de casse-couille, donc, pour en faire beaucoup plus simple. On est dans les années 70. Il a l'intention, dès le départ, son intention reste que c'est un film psychédélique, c'est l'intention, il est dans un ego trip. Enfin, peut-être pas un ego trip encore à l'époque, mais dans un trip.
Il place son fils comme une figure christique et il se place lui-même comme un leader de culte. Donc l'ego trip est quand même un peu là.
Un peu beaucoup là. Le film est réalisé à une époque, on est... Je vous dis clairement, en 73, il est sorti, donc il est vraiment tourné sur toute la fin de la culture hippie, au pic du psychédélisme. Donc on est vraiment à fond. Comme tu le disais...
Produit par le manager des Beatles.
Oui, oui, oui.
Et par, alors je crois que c'est John Lennon, ils ont mis des billes dans la production du truc.
Alors, un des Beatles aurait mis un peu d'argent en plus dans la prod, mais alors je ne m'avancerai pas de tête comme ça pour leur dire. Mais clairement, on est dans un pur produit de la fin des années 60, du début des années 70. Le truc, ils étaient... Comme je dis, il y a beaucoup de notes de production, beaucoup de gens qui sont réintervenus après. Il y a un très bon documentaire qui avait été fait sur l'histoire de Jodorowsky et que lui-même en reparle. Honnêtement, ça devait être un foutoir. Parce que entre les mecs blindés, Jodorowsky qui exigeait toujours la même chose, qui portait son fils au nu, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui réfléchissait pour son fils, je précise bien, à la méthode actor, ça veut dire à faire que son fils soit constamment le personnage, comme au départ, comme après ce film-là, il voudra que son fils joue Paul Atreides, oui. Et qu'il va lui faire 3 ans d'entraînement pour qu'il soit le Paul Atreides qu'il veut.
Pour un film qui n'a pas eu lieu.
C'est un film qui finalement n'a pas eu lieu. Certains diraient avec regret, d'autres avec plaisir. Mais voilà, on est vraiment dans un objet filmique. J'ai du mal à dire que c'est un film parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la BO, il y a des ruptures constantes, il y a des séquences autonomes, il y a des trucs, tu ne sais pas pourquoi il te raconte cette histoire à ce moment-là.
Au regard d'un truc. Il n'y a pas de narration véritablement structurée, c'est plus une manière très didactique de raconter. C'est un ouvrage philosophique en fait.
C'est une forme d'essai même.
Exactement, c'est un essai philosophique sous la forme d'un film. Avec des métaphores qui sont plus ou moins évidentes, certaines qui sont sûrement plus proches de questions religieuses ou spirituelles, qui sont pour le coup qui m'échappent totalement, mais d'autres qui sont plus liées à des questions historiques, donc la montée, l'arrivée du fascisme, la colonisation, ce genre de choses, la présence de touristes qui vont participer au maintien du fascisme aussi, parce qu'à un moment il y a une touriste qui arrive et qui demande un soldat de la violer, c'est super étrange, mais en même temps quand tu prends dans le contexte du participation de Thatcher et du soutien de Pinochet, c'est des trucs qui sont tout à fait logiques par rapport à la dénonciation de la participation justement des gouvernements européens par rapport au maintien du fascisme dans ces pays-là. C'est des trucs tout à fait cohérents. Il n'y a rien de vraiment choquant quand tu connais un petit peu l'histoire. Tu dis genre, oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Après, quand ça passe vraiment dans des trucs beaucoup plus théologiques ou en tout cas religieux, c'est là où le film est encore plus intéressant à regarder, mais demande peut-être plus d'attention et peut-être une lecture plus profonde. Alors, à savoir si
La question de la surinterprétation dans ce film-là, elle pose vraiment le doigt dessus parce que, oui, Jodorowsky avait une envie de dénoncer globalement les dictatures d'Amérique du Sud installées par les pays occidentaux, particulièrement par les USA, on va être super clair, et particulièrement dans le cas de Pinochet en Argentine.
Ouais.
C'est ça. Il voulait le dénoncer. Mais à côté de ça, comme on l'a dit plus tôt, il balance des pures séquences d'ego trip perso, familiaux, qui des fois décalent complètement le discours du film. Et du coup, le vrai truc qui rend le film parfois malaisant, parfois stupide, et parfois, incompréhensible, c'est toutes ces bascules de moments qui sont soit un ego trip, soit une dénonciation, et dans lequel la narration, le lien technique, voire même des fois graphique ou artistique, n'existe pas. Et là, c'est là où le film pose problème. C'est un énorme objet de cinéma à voir dans une culture cinématographique, mais il faut le voir en sachant ce qu'on va voir.
Voilà. Alors, il y a aussi quand même pas mal de choses à des liens, je pense, super intéressants par rapport à ce dont tout on a parlé dans le podcast. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Aussi, petit détail par rapport à Jodorowsky, si vous avez lu les bandes dessinées de Jodorowsky, que ce soit des trucs comme Le Lama Blanc ou Alefto, c'est des choses qui se retrouvent en fait dans le film, parce qu'à un moment pour Alefto, donc Alefto c'est l'histoire d'un enfant à qui il manque les bras et les jambes, et qui va dans sa quête initiatique en fait retrouver ses membres au fur et à mesure. Et là dans la montagne sacrée, il y a un personnage justement qui est aussi, en l'occurrence un homme qui est qui n'a ni bras ni jambes et qui va être aussi un personnage important et une sorte de métaphore en fait dans le film. Ouais. Je ne m'approcherai pas trop exactement le sens de la métaphore, mais en gros, il y a pas, si vous aimez le travail de Jodorowsky, c'est quand même un détour assez essentiel, je pense, si vous voulez comprendre ou en tout cas retrouver certains des éléments de son travail. Après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes pour nous dans le cadre du podcast. C'est le fait que, par exemple, toutes les séquences où tu as l'introduction de Saturne et de toutes ces figures en fait, qui incarnent et qui vont se révéler être des incarnations de l'armée, des figures industrielles. Toutes les introductions, en fait, elles ont été samplées sur Von Kröscher Plus de Company Flow, sur l'introduction au morceau Population Control. Il y a un instrumental juste avant Population Control où on retrouve absolument tout plein de répliques de ces trucs. Mais alors quand t'as dit My name is Saturn, I create war toys, the government tell me what toys to produce. Et ça c'est unique, c'est la montagne sacrée. Et je regarde, j'ai saigné Von Kröscher Plus. Du coup, en regardant le film tout récemment, j'étais genre, je pouvais dire les répliques au fur et à mesure.
Tu savais pas que ça sortait de là?
Non, je savais pas que ça sortait de là. J'ai totalement découvert en regardant la montagne sacrée, en disant genre, mais Ah, waouh! En fait, c'est des cendres de la montagne sacrée. Donc, c'est une œuvre qui non seulement a un impact sur qui a une importance dans la découverte de Jodorowsky et dans son travail, mais en tant que tel, c'est vraiment un réservoir à samples, un réservoir à idées. Quand on le regarde, je pense, avec chacun, avec sa propre culture, on peut retrouver des traces de la généalogie ensuite, d'idées qui vont éclore de manière différente. De la même façon que dans Dune, on a pu parler du fait que Dune a donné lieu par la suite à des tas de projets différents. Je trouve que la Montagne Sacrée, c'est exactement la même chose. Il y a de quoi...
C'est moins prégnant.
C'est moins prégnant, mais en fait, c'est moins prégnant, je pense que c'est parce que des projets qui ont eu moins de... Enfin, je peux pas comparer Front Chronosphere Plus à Star Wars, si tu veux. C'est pas exactement le même impact.
Alors, c'est pas en ça que je dis que c'est moins prégnant, parce que je pense qu'à l'inverse... c'est une œuvre filmique. Tout ce qui va ressortir de là, qui va transfuser sur un autre médium, qui est donc la musique, je pense que l'impact peut être moindre. Hein. Ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où c'est le cas.
Plus difficile à suivre. En
voilà, la lignée est plus difficile à suivre. À l'inverse, quand on parle du storyboard art book bible du Dune de Jodorowsky, qui a circulé pendant 3 ans dans tous les studios hollywoodiens, ouais, qui est passé entre les mains de tout le monde, là, et que les mecs derrière, on parle de Lucas, de Ridley Scott, derrière, les mecs voient un objet de cinéma potentiel, ils font des films derrière, la lignée, elle est directe. Surtout que visuellement, il y a des plans, on voit, que ce soit dans le Ridley, dans Alien de Ridley Scott, ou dans le Star Wars, le premier de l'épisode, donc 10, maintenant 4, de George Lucas, il y a littéralement des plans qui sont sortis du storyboard de Jodorowsky.
Oui, et puis à l'époque même, il y a une anecdote d'ailleurs sur Star Wars qui dit que Frank Herbert faisait partie d'un petit groupe d'auteurs de SF qui se réunissaient et qui, je crois, leur nom informel c'était on n'a pas assez d'argent pour faire un procès à George Lucas. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient tous été pillés d'une manière ou d'une autre.
D'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi après la culture de l'inspiration. Et ce que tu dis en transfert, moi je pense que tu vois, la seule truc que ça me vient de faire, c'est que j'ai envie de le revoir, la Montagne Sacrée. Je ne l'ai pas vu depuis un petit paquet d'années quand même. Mais j'ai envie de le revoir parce que je suis sûr que je vais retrouver d'autres références.
Et ben, parce que ça tombe bien parce que je l'ai vu à l'occasion de sa restauration en 4K.
Ouais. D'ailleurs, chez Criterion ?
Ouais, alors moi j'ai vu aussi Noche, mais... Ouais.
Mais ouais, non, mais ça c'est... Alors, ça en 4K, je dois avouer, il faut pas comme une trop grande télé, mais passons.
Non, mais je pense que c'est surtout parce que c'est de la restauration. À mon avis, les bobines, elles ont dû être, elles devaient être un peu fatiguées. Ils ont fait genre, ok, on va préserver ça. Parce qu'en fait, malgré le fait, on a parlé beaucoup du fait que c'est quand même assez difficile à suivre, qu'il y a des questions éthiques et morales qui sont quand même importantes à s'interroger sur ça. Voilà, on pourra en parler, parce qu'à mon avis, il doit y avoir un paquet de trucs. Mais c'est une œuvre qui mérite d'être vue. C'est une œuvre qui mérite d'être vue en connaissance de cause, mais il y a tellement de choses dedans. Alors par exemple, moi, j'aime beaucoup quand il y a la séquence de la création artistique, quand ils font une espèce de sculpture automatisée.
La création d'art contemporain, on va dire.
C'est fascinant. Enfin, tu regardes le truc, tu te dis genre, mais attends, ça, tu peux faire exactement ça, elle fout dans un musée, les gens vont péter des plombs, quoi.
Il y a des artistes qui produisent maintenant, en 2024, des œuvres de cette manière-là. Hein.
Oui,
bien sûr. Semi-automatisée, mais... avec un système de semi-intelligence.
Mais d'accord.
Et mais surtout, dont l'œuvre va continuer d'évoluer dans la galerie.
Oui, voilà.
Et ça, il y a un vrai truc là-dessus. Mais de toute façon, Jodorowsky était intéressé par le principe de création. Quand je disais Demiurge tout à l'heure, au début de ta chronique sur pour la BO, c'est le mot n'était pas vraiment pas choisi par hasard. Il a ce côté créateur-destructeur dans ce qu'il produit. Je vous dis, il y a une interview de lui qui est assez édifiante. De lui, il est interviewé, et il se qualifie lui-même de destructeur. Par moments, tu entends bien que vivre avec lui, même au quotidien, même sa famille, il était capable de la détruire. Au sens artistique du terme, je mets des gros guillemets. Hein. C'est vraiment quelqu'un de particulier. Et ça transcende. Et le film transpire de ça.
En interview, de ce que m'a raconté, parce que du coup, le fils, il est quand même toujours interrogé. Il fait partie de l'histoire du film. Hein, mais il participe avec son père, des fois, dans des Q&A et des trucs comme ça. Et
de façon très récente. Ça fait très récent qu'il est capable de remonter sur un plateau pour discuter de ça avec son père.
Hein. D'accord, ok.
Ils avaient fait un documentaire en...
La danse de la realidad, la danse de la réalité.
Je sais plus en quelle année, mais je crois que ça devait être un peu avant la sortie du premier film de Villeneuve de Dune. Il y avait un gros documentaire français, enfin Arte,
Oui, simple. Documentation Dune, tu veux dire.
Ouais, sur, enfin, sur l'histoire du Dune de Jodorowsky, et donc sur comment ça avait infusé justement toutes ces histoires. Le fils avait été interrogé dans le début du documentaire, le fils s'interrogeait d'un côté, Jodorowsky de l'autre.
Ouais.
Et c'est dit dans le documentaire, ils n'ont pu refaire une interview avec les deux côte à côte, quasiment qu'à la toute fin de la production et du tournage du documentaire, parce que jusqu'à nouvel ordre, père et fils ne voulaient pas discuter ensemble du film.
D'accord, ouais.
Donc c'est vraiment, c'était vraiment particulier.
Je connais quelqu'un qui a pu voir du coup une présentation, enfin où il y avait les deux sur scène, et le fils aurait dit de manière très très claire, et par rapport à sa collaboration avec son père, disant genre mais de toute façon mon père ne comprend pas le sens du mot non.
Ça veut dire
beaucoup de choses quand on parle, quand tu vois le film et quand tu vois le travail, t'es genre ah ok d'accord, donc c'était pas juste un peu toxique en fait, c'est genre c'était une usine nucléaire en fait, c'est ça que vous voulez dire, genre d'accord, ok cool.
Et on en revient au fond du propos, c'est un film extrêmement intéressant à voir, mais c'est un film qu'on ne peut pas voir sans contexte, sans avertissement intellectuel, sans avertissement contextuel.
Ouais,
parce que on peut pas juste dire parce que personnellement moi j'ai vu comme ça en fac, on m'a dit allez on regarde ça aujourd'hui, on regarde La Montagne Sacrée de Jodorowsky, tu peux pas prendre le film brut cash comme ça. J'étais en fac, j'avais un certain âge, j'avais déjà une culture cinéma, donc tout de suite tu vois les bails, tu comprends qu'il y a des trucs, tu vois où il y a plein de petits détails qui sont problématiques et qui problématiques tant au sens du fond que sur ce que ça devait être en termes du contrôle. Mais c'est un film qui, je pense, en 2024 on peut pas le balancer sans un minimum de discussion, sans un minimum d'introduction. Je crois que quand il avait été diffusé à la Cinémathèque, c'est pareil, il y avait eu débat après, il y avait eu débat avant, dans le sens où il y avait une énorme discussion sur ce qui allait être montré.
Oui, parce et ça que, se comprend, ouais.
Je crois que Laurent l'avait fait, Laurent, mon frère, donc il avait assisté à la séance, mais c'est un film, et c'est en ça d'ailleurs, c'est pour ça que, comme je dis, quand tu as balancé cette reco, j'ai constamment hésité à savoir si c'était lié ou pas au film, parce que je voyais bien la construction, mais il y avait quand même pour moi, elle est plus à même que le score d'origine. Mais assez paradoxalement, c'est assez fou en 2024 de refaire un score sur un truc pareil.
Oui, mais je trouve qu'on peut encore refaire un score sur ça parce qu'il y a tellement d'idées en fait que tu peux facilement te regarder le film et te dire genre ah ouais quand même,
oui.
on peut trouver une nouvelle interprétation. On peut trouver l'énergie, parce que c'est aussi un film qui déborde d'énergie quand même.
Bah oui, il y a une richesse visuelle par moment, il y a des plans, il y a une richesse de construction filmique. Alors, le problème, c'est que c'est par séquence. On revient fondamentalement, c'est le truc, c'est qu'il y a des séquences génialissimes avec des plans de caméra, il y a un plan séquence. Ça va être dans la séquence de création artistique. Oui, parce qu'il y a tout le jeu justement du montage progressif. Enfin, il y a tout un tas de séquences, il y a tout un tas de choses qui sont faites visuellement, graphiquement, artistiquement, qui sont géniales, qui sont d'une richesse infinie. Hein. Comme je disais, c'est un film qu'on peut revoir une fois qu'on sait ce qu'on regarde, et toujours y piocher d'autres références. Tu penses tout à l'heure, tu parlais des grenouilles et tout, les grenouilles qui sont
l'incarnation des Mayas.
Enfin, l'incarnation des Espagnols qui vont massacrer les Mayas. C'est aussi les grenouilles, juste pour info, pour continuer dans la métaphore christique, c'est aussi les fléaux d'Égypte.
D'accord, oui.
Tu vois, il y a le niveau de lecture et la surinterprétation possible de ce film est gigantesque.
Mais c'est aussi ça qui fait justement le charme du truc.
Exactement.
C'est que tu peux vraiment trouver l'auteur. Alors, le film, d'ailleurs, va encore plus loin, puisque non seulement on interprète, mais en plus, c'est un film qui est mené par un narrateur veut être un leader, finalement, de culte, qui va emmener tout plein de personnes dans une trajectoire intellectuelle. À savoir si est-ce qu'il les manipule, est-ce que c'est vraiment une manière de les faire trouver une sorte de félicité, c'est ouvert à discussion. Je trouve la conclusion absolument fantastique parce que elle ouvre vraiment mais tout plein de choses, mais elle correspond très bien à ce que tu peux penser par rapport à Jodorowsky et sa manière pseudo collaborative en fait, parce que c'était aussi le cas dans son premier film, Fondo Ellis, quand il a réalisé le truc, c'était censé être fait d'une manière avec tout le monde qui participe. Alors,
la culture hippie.
Voilà, la culture hippie du chacun peut ouvrir sa gueule et peut participer. Et le film, en fait, la conclusion du film laisse entendre un petit peu cette manière, cette approche de la créativité, ce qui est encore une fois ultra paradoxal par rapport à un type qui est insupportable et parce que pour le coup, malgré le fait que tu puisses te dire chacun pouvait participer et peut-être que chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice, c'est clair et net que c'est la vision d'une seule personne.
Mais c'est souvent un truc qui, comme tu le dis, à l'époque, il voulait que tout le monde participe, mais c'est lui qui tranchait à la fin.
Oui.
Et ça va exactement avec le personnage qu'il incarne, lui, le maître de culte, qu'il doit, il doit amener les autres à l'absolu, enfin, une espèce d'absolu à l'immortalité, ouais. Ce qui est plus ou moins l'histoire. Sauf qu'en réalité, c'est le chemin par lequel il est fait prendre. Il dit pas, il va te dire chacun prend son chemin, et c'est supposé de nous montrer ça avec les fameuses séquences chacun prend son chemin. Ben non, non, si tu regardes bien la manière dont tu peux l'interpréter, c'est qu'en réalité, c'est lui qui choisit le chemin de chacun.
Exactement, ouais.
Et du coup, ça inverse complètement le propos d'initial. Enfin, voilà, c'est en ça que ce film est... Voilà, on pouvait parler...
C'est un film très problématique de ce point de vue-là, hein, même et sur la question d'interprétation du message en lui-même, parce que tu peux vraiment te poser la question de dire, genre, est-ce qu'il essaye vraiment d'une manière didactique de montrer sa propre philosophie, ou est-ce qu'il essaye de dénoncer la manière de travailler des leaders de culte et de sectes qui veulent vendre une sorte d'arrivée à la... à la plénitude, alors que en fait l'idée c'est juste de dire genre bon le brousouf il va dans ma poche là, voilà. Et puis bah vous avez besoin de plus en avoir parce que du coup c'est important pour
vous libérer.
Voilà, on vous libère, bon, vous donnez aussi les clés de la bagnole et de la maison aussi parce que vous en avez plus besoin de toute façon, vous allez par là, c'est bien, bon bah bonne journée, hein. Salut. C'est...
mais tu peux mettre ça là, tu peux creuser ça encore plus loin dans le sens où tout à l'heure on parlait des dénonciations, mais toute cette culture du personnage, du messie, du christianisme, dans le côté appropriation culturelle, il y a une vraie problématique d'appropriation culturelle, parce qu'il fait tout un tas de références. Enfin, on parle d'un mec, Jodorowsky, alors, donc d'une culture espagnole, d'une origine...
Chilien,
voilà, qui va donc aller... Jodorowsky, chilien. Le nom, enfin, c'est toute sa famille, il y a toute une culture, un passé d'immigration dans un sens et dans l'autre.
Ouais.
On peut poser la question sous mille manières, manières. Et c'est aussi l'intérêt de ce truc.
Et c'est ça qui fait, je pense, tout le charme et toute la puissance du travail Jodorowsky, hein, c'est que, enfin, et toute la puissance dans le sens positif et à la fois autant négatif. Hein, je veux dire, je veux pas non plus ériger le bonhomme comme étant, le porteur de la vérité universelle. C'est clairement pas le cas. Mais voilà, ses bouquins, son œuvre est super intéressante. Lancal, ça se lit encore super bien maintenant. Ouais. Le travail avec Moebius est assez ouf. C'est un type on ne peut pas l'ignorer son travail quand on s'intéresse à la culture années 70 et la culture science-fiction. Et toutes les dérives que ça a pu avoir en termes de questions spirituelles. Mais il est à prendre avec des pincettes. Alors pour revenir un peu sur la BO vite fait,
ouais.
Elle a été réalisée, donc elle est créditée sur Jodorowsky, mais elle est aussi créée par Don Cherry, qui est un trompettiste jazz qui a bossé avec John Coltrane, Eric Dolphy et beaucoup d'autres musiciens. Et on fait encore un parallèle avec quelque chose dont on a parlé auparavant, puisqu'il a bossé aussi avec Christophe Penderecki. On avait parlé pour son œuvre Trinity for the Victims of Hiroshima. Donc c'est ça aussi l'intérêt aussi de The Holy Mountain dans sa globalité, c'est que les gens impliqués en fait ça tisse des liens avec énormément de choses et on peut aborder et arriver au travail à l'œuvre en elle-même mais plein d'angles différents. Donc la BO d'ailleurs, elle s'écoute super bien, mais c'est vraiment beaucoup plus jazz un peu orchestré, avec jazz fusion très orchestré.
Ouais.
C'est très bien, ça s'écoute vachement bien. Moi j'ai quand même préférence pour la version de Bunninghut, je trouve. Il y a quelque chose qui plaît, alors que pour le coup Don Cherry, j'ai rien contre. Hein. Enfin,
ouais.
John Coltrane, c'est peut-être un de mes musiciens favoris, peut-être mon plus grand musicien favori. Mais en tout cas, elle s'écoute facilement, elle est en streaming, hein, si vous voulez tester la BO de The Holy Mountain, donc la version originale, elle mérite le détour. Mais donc du coup, si vous avez l'occasion d'aller voir au cinéma, allez-y, après peut-être avoir écouté l'épisode, en connaissance de cause, et puis revenez nous en parler, quand vous l'aurez vu, parce que pour le coup,
s'il y a matière, on en parle. C'est un sujet de
conversation. Tout à fait.
Je pense que c'est sur ces très bons mots que nous allons finir cet épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas. Venez nous dire ce que vous en pensez sur notre Instagram, Recosic le podcast.
On est aussi sur Facebook maintenant et on est aussi sur Blue Sky parce qu'on est partout.
Voilà, si vous voulez juste nous parler à moi ou à Aurora, c'est sur nos différents réseaux sociaux. Moi, c'est Arnaud Doucet, ArnaudDoucet.
Et moi, c'est HOHERO.
Voilà, on va vous dire portez-vous bien, on espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt.
Bisous, à bientôt.